Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce soir, nous parlons de la démocratisation de l'enseignement supérieur.
Rue des Écoles, Louise Touret.
Tu fais les choses dans le bon ordre. Le jour où tu voudras faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. Tout le monde a entendu cette phrase du président de la République prononcée cette semaine. Elle a été beaucoup, beaucoup commentée. Mais on peut ajouter qu'elle en dit énormément sur la place du diplôme dans la psyché française. Sur ce sujet, on ne saurait trop vous conseiller la lecture de la Société du Concours, L'Empire des classements scolaires d'Annabelle Alouche, un ouvrage qui dit tout de l'importance du diplôme dans notre société. Une importance qui explique pourquoi on peut, comme le président, opposer l'empire du diplôme à la révolution. Cette anecdote tombe la semaine où, dans Rue des Écoles, nous voulons nous interroger sur l'accès au diplôme, la démocratisation des études supérieures. Qu'est-ce qui caractérise le parcours d'un diplômé de Sciences Po et de l'ENA, comme Emmanuel Macron, celui d'un titulaire d'une licence universitaire ou le parcours de celui ou celle qui échoue à décrocher un diplôme? Alors qu'un nombre record de lycéens a passé le bac cette semaine et donc que davantage d'étudiants seront encore à la entrer sur les bancs des universités, IUT, écoles ou grandes écoles, nous allons nous demander ce qui joue sur la réussite des étudiants. Et ce n'est pas seulement une question de classe sociale. Et comment démocratiser l'accès au diplôme? Au programme de cette émission également, la page d'actualité de l'école avec Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de l'étudiant, notre partenaire. Marie-Caroline nous parlera du bac et du plan mercredi. Et puis en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, aujourd'hui avec le chanteur Aldebert, vous savez, la star des enfants et des parents, un parcours en musique entre Brassens et Metallica. Mais on commence avec notre dossier, la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et je salue les invités de Rue des Écoles, Eunice Mangano-Lunetta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des programmes de l'AFEV, une association qui s'occupe de soutien scolaire, de mentorat aussi, tutorat.
D'accompagnement, oui, effectivement.
C'est l'accompagnement et vous participez à un colloque la semaine prochaine sur la démocratisation de la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc on a bien compris de quoi nous allons parler dans cette émission, ça fait plusieurs fois que je le répète. Pourquoi vous intéressez à cette question ?
Alors on fait mieux que participer en fait, on l'organise avec le monde d'ailleurs. Alors pourquoi on s'intéresse à cette question de la démocratisation de l'enseignement supérieur ? Déjà le titre de cet observatoire qui va faire sa journée, c'est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des universités. Nous, à l'AFEV, c'est le plus important réseau d'étudiants qui se mobilisent dans des actions de solidarité dans les quartiers prioritaires. Et pourquoi cette question de la responsabilité sociétale des universités nous intéressait ? En fait, à deux égards. La première chose, c'est que la question de l'engagement étudiant, pour nous, était important, structurant, et on voulait expliquer, et certaines facs l'ont très bien compris assez vite, qu'au-delà du classement de Shanghai, c'est important la question de l'engagement.
Le classement de Shanghai, c'est un classement qui dit quelles universités sont les plus importantes, les plus prestigieuses. C'est beaucoup en fonction des parutions scientifiques aussi. Donc, ils comparent les universités à travers le monde. Reprenez.
Voilà, pardon. Merci. Et donc, la question de l'engagement doit être considérée comme structurante et qu'il y a une responsabilité des universités dans les territoires dans lesquels elles sont ancrées et notamment par rapport aux publics les plus fragiles à côté desquels elles se trouvent. Donc, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qui a directement à voir avec nos échanges aujourd'hui, c'est que dans une société de la connaissance aujourd'hui, bien sûr, le parcours, la réussite du parcours est très fortement indexé non seulement en fait sur la réussite scolaire, mais aussi sur la réussite universitaire et sur la réussite à la fac. Donc, il y a quelque part, les universités doivent être responsables en réalité de non seulement l'accueil qu'elles font à de plus en plus d'étudiants, comme vous l'avez dit, mais même, pourquoi pas, de se préoccuper de leurs futurs étudiants, donc de commencer à se tourner en amont vers les lycéens, vers les collégiens, voilà.
On va y revenir, évidemment, c'est très important dans cette société, cet empire du diplôme, peut-être dans lequel nous vivons en France. Bonjour Cédric Hugré.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS au sein du laboratoire CRESPA CSU, je ne sais pas si j'étais préparée à lire ce sigle, donc c'est CRESPPA-CSU. Et vous venez de publier un article, 50% à la licence, mais comment les jeunes de familles populaires à l'université en France? J'indique qu'il y a trois auteurs à cet article avec vous, Yael Brinbaum et Tristan Poulaouet, qui sont également chercheurs. Tout à l'heure, nous aurons également Jimmy Losfeld, président de la FAGE, qui est une association étudiante et qui est le syndicat, enfin, c'est pas vraiment un syndicat, mais qui est majoritaire parmi les étudiants aujourd'hui en France. Mais on va commencer sur l'étude avec vous, Cédric Hugré. Vous le dites dans le texte, cette étude fait un point 30 ans après la généralisation de l'accès au lycée, et c'est une étude de très grande ampleur, elle a concerné 18 000 élèves et étudiants.
Absolument, on a eu l'occasion d'exploiter les données d'une enquête par questionnaire qui a été passée auprès d'élèves entrés en 6e en 1995. Cette enquête, elle est très importante pour la France parce que c'est une des enquêtes majeures par lesquelles la France a découvert dans les années 60 qu'elle était une école de l'élimination sociale. Et depuis, cette enquête, elle est régulièrement refaite par le ministère de l'Éducation nationale et puis par l'INSEE. Et donc là, on a la dernière génération, enfin la plus jeune, d'élèves entrés en 6e en 1995 qui sont devenus bacheliers. Et une fois qu'ils sont devenus bacheliers, on s'est intéressé à leur devenir à l'université, et plus particulièrement au fait qu'ils puissent obtenir ou non une licence. Donc l'intérêt de cette source, c'est qu'elle permet de reconstruire à la fois une origine sociale assez détaillée, notamment par le diplôme des pères, des mères, leur position socio-professionnelle, mais aussi elle permet de comprendre la totalité du parcours scolaire depuis l'entrée en sixième jusqu'à l'obtention de la licence. Elle a une profondeur sur le temps long que n'ont pas tout un tas d'autres sources, et donc elle nous permet comme ça de combiner des variables qu'on a l'habitude d'analyser séparément, mais là ensemble, le parcours scolaire, le genre, l'origine migratoire, pour ceci, tout indiqué pour observer l'état des inégalités actuelles dans le système universitaire français.
Et j'ajoute que cette enquête, elle a une énorme profondeur historique, puisque vous l'avez dit sans vraiment le dire, c'est dans les années 60 qu'on a commencé à travailler, que la sociologie a commencé à travailler sur ces enquêtes, et ça a totalement structuré le débat scolaire. Depuis Bourdieu, on va quand même prononcer son nom, Cédric Hugré.
C'est vrai. Alors au départ, c'est plutôt les chercheurs de l'INED que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui ont exploité cette enquête. Enfin, néanmoins, ils arrivaient à des résultats assez convergents. Il faut savoir qu'à l'étranger, quand on regarde cette source, c'est comme ça qu'on parle, cette enquête, elle est assez admirée, enviée. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de thermomètre pour mesurer les inégalités sociales et scolaires à l'université ou dans l'enseignement secondaire, tout simplement. Et donc, on a la chance d'avoir des outils de connaissances scientifiques des inégalités. Ça me semble être particulièrement important dans le débat actuel, notamment sur la sélection à l'université. Mais ça me semble historiquement aussi très important parce que c'est vrai qu'une partie des politiques scolaires alimentées régulièrement par les résultats de ce panel de suivi des élèves qui sont entrés en sixième.
Et cela structure le regard sur une école qu'on dit élitiste. Alors on va voir si c'est toujours le cas, mais enfin ça semble quand même être un peu le cas. Ce qu'on voit, c'est que la réussite des étudiants est extrêmement prévisible en fonction de leur destin scolaire, un destin qui s'écrit très tôt, Cédric Hugré.
Absolument. Alors un des points très importants de cette enquête, c'est qu'on a pu combiner ensemble ce parcours scolaire et puis l'origine sociale et sous-peser l'effet de chacune de ces étapes clés du parcours scolaire et puis aussi de cette origine familiale qui n'est pas égale, bien sûr. Et c'était un des enjeux de connaissance aujourd'hui de l'université, puisque le débat au début des années 2000, il s'est un peu cristallisé sur cette question du niveau scolaire des étudiants à l'entrée. Et en fait, la question qui se pose un peu plus aujourd'hui dans le débat politique, c'est plutôt celui de la sous-sélection scolaire des étudiants plutôt que celle de leur auto-sélection. C'est-à-dire que les étudiants viennent à l'université, mais il y a toute une partie de gens qui prennent position pour dire qu'ils n'ont pas le niveau, que c'est pas satisfaisant. Enfin, il y a cette crainte-là. Et cet outil, il a permis de dénombrer un peu, alors avec des conventions, mais enfin de dire qui étaient les étudiants qui avaient des difficultés un peu précoces, enfin, ou du moins à l'entrée en sixième. Et combien est-ce qu'il en restait beaucoup? Il en reste très très peu finalement en licence. Mais quand il en reste, c'est pas n'importe qui. Et bien sûr, ça se distribue pas au hasard dans l'espace social. Ce sont pas des enfants de profs qui restent dans le système de l'enseignement supérieur avec des difficultés scolaires. Et surtout, cette étude, elle a permis d'aller un peu au-delà de ces constats-là et de creuser derrière un bac général qu'on sait qui est très favorable à l'obtention de la licence, mais de regarder derrière la manière d'obtenir son bac général, ce que ça produisait jusqu'à la licence et même jusqu'au master. Et là, il y a des profondes inégalités entre le fait d'avoir eu son bac général avec une mention ou de l'avoir eu sans mention ou de l'avoir eu sans mention mais avec un an de retard. Enfin, à l'intérieur des bacheliers généraux, il y a bien sûr des fortes inégalités, et le bac général, bien sûr, il permet beaucoup de choses à l'université par rapport au bac technologique et au bac professionnel. Mais à l'intérieur, il y a des manières très très variées d'obtenir sa licence qui augurent de destins scolaires en master qui sont très très diversifiés aussi.
Un destin écrit à l'avance et une partition difficile à déjouer. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse, car c'est bien une faiblesse de l'institution scolaire à infléchir le parcours des élèves? Est-ce que d'abord une étude comme ça dit quelque chose de ça, Cédric Hugré?
Ouais, elle fait un petit pas de côté par rapport à l'histoire de la sociologie de l'éducation, et de ce point de vue, il y a quand même un petit caractère inédit, d'une part parce que je le redis, on se sert de la profession du père et de la mère, et d'autre part parce que grâce à cet indicateur d'entrée en sixième, les évaluations nationales d'entrée en sixième et les performances des élèves à l'entrée en sixième, on a un moyen de regarder ce qui s'est passé au terme des évaluations des savoirs fondamentaux, de l'entrée dans la culture écrite, dans la culture mathématique, enfin le dénombrement. Et cet aspect-là, en fait, est central dans les suites du parcours et jusqu'à la licence. C'est-à-dire, sur le temps long, l'entrée ratée dans les savoirs élémentaires pèse lourd 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Et ça, c'est un point qui, quand même, redonne un petit peu d'espoir à la politique éducative, parce que si on met le déterminisme scolaire seulement du côté des familles, on a un peu de mal à imaginer comment agir directement. Notre enquête, elle dit pas qu'il n'y a pas de déterminisme social, au contraire, elle confirme ces résultats qu'on connaît depuis les années 60, effectivement. Mais elle insiste aussi sur le fait que les entrées réussies dans les savoirs élémentaires, dénombrer, lire correctement, sont décisives, et sont encore plus décisives pour les élèves des milieux populaires que pour les enfants des classes moyennes et supérieures. Donc l'entrée dans la culture écrite, à proprement parler, et l'entrée correcte dans la culture écrite au CP et tout au long de l'école élémentaire est décisive du parcours. Un des résultats frappants, c'est de se dire quand même, effectivement, les enfants des milieux populaires, les bacheliers des milieux populaires ont plutôt moins leur licence que les enfants des classes moyennes et supérieures, c'est le constat brut. Sauf que quand on regarde les parcours scolaires, quand on compare à parcours scolaires comparables, en fait, ils ont autant leur bac et leur licence que les enfants de profs ou de cadres, bien sûr que les autres. Donc en fait, c'est pas tant l'origine sociale qui joue à ce moment-là du parcours. L'origine sociale, elle joue plutôt en amont, au moment de l'entrée dans les savoirs fondamentaux.
Et c'est intéressant, à l'heure où l'angoisse scolaire est énorme en France, on entend sur des antennes amies du groupe Radio France des publicités presque tous les jours pour du soutien scolaire. On sait que les parents français dépensent énormément d'argent, c'est la plus grosse dépense si on compare aux autres pays d'Europe pour les cours particuliers. Beaucoup d'angoisse sur cette réussite qui finalement dépend, ben voilà, de ce qu'on a fait à l'école et de ce qu'on y a fait très tôt. Eunice Mangado, alors vous, c'est du soutien et de l'accompagnement scolaire. En quoi l'accompagnement, ça peut changer un destin scolaire?
Alors je dirais même que l'angoisse, c'est un marché. Le marché de l'angoisse scolaire est particulièrement florissant dans ce pays, vous avez raison. Alors nous, on fait de l'accompagnement. Je trouve vraiment très intéressant dans la note l'idée vraiment de se poser la question de l'amont et de pas juste interroger l'accès à l'enseignement supérieur. On a beaucoup parlé Parcoursup ces derniers mois, etc. Et Parcoursup, c'est quelque part la capacité d'un système à pouvoir répondre en fait aux besoins, aux aspirations des élèves. Mais on s'interroge peu sur la capacité du système en amont à pouvoir aider à construire en fait... quelque part ses aspirations. Donc nous, ce qui nous intéresse à la FEV, on a toujours travaillé et dès le plus jeune âge, on a des actions en fait d'accompagnement pour la charnière grande section de maternelle CP sur la question de l'entrée dans l'écrit, parce qu'on voit à quel point il y a des moments charnières comme ça dans le parcours qu'il faut quelque part particulièrement accompagner. Donc on est toujours dans une logique de sécurisation du parcours éducatif, hein, pour reprendre ce terme un peu. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment effectivement comment tout au long du parcours, pour des... Alors nous, on travaille uniquement sur les élèves en zone d'éducation prioritaire, en réapérer plus. Donc pour ces élèves-là, bien sûr, pour n'importe quel élève, toutes les charnières vont être compliquées et fragilisantes, encore plus pour ces élèves. Et l'idée, c'est vraiment, dès le premier degré, pouvoir sécuriser ce parcours. Et surtout, quelque part, on a été forcé de se poser la question de la démocratisation de l'enseignement supérieur parce que, il y a quelques années, c'est des facs qui sont venus nous trouver pour nous dire, mais voilà, aujourd'hui, on a des nouveaux profils, en fait, d'étudiants qui arrivent en L1 et qui, en fait, sont très fragiles. Et la question de leur accompagnement se pose. Donc finalement, en fait, on a entre le scolaire et le supérieur une logique de sécurisation du parcours tout au long. Ce qui est intéressant en fait dans ce qu'on fait à la FEV, c'est que ce ne sont pas des professionnels de l'éducation qui interviennent, ce sont des étudiants qui sont engagés et qu'ils interviennent via des modalités plutôt individuelles, à travers de l'accompagnement qui est fait individuellement à domicile ou alors avec des actions plus collectives, avec des jeunes en service civique qui interviennent dans les collèges et les lycées en milieu prioritaire. Finalement, ce qui est intéressant, c'est le rapport en tant qu'étudiant. La première chose qu'amène spontanément et sans pratiquement le format proposer à un étudiant qui va parler tout simplement de ce qu'il est à un enfant, c'est ben c'est quoi tout simplement ben, être un étudiant.
Savoir qu'on peut être étudiant parce qu'on n'en a pas forcément dans son entourage. On va écouter ben, juste aussi pour entendre des élèves, des collégiens parler.
Le tutorat, ça m'a apporté des choses que je ne connaissais pas et que maintenant je connais. Et c'est vraiment bien.
Le tutorat m'a apporté pour moi savoir dans quoi je veux aller et m'a servi à trouver ma spécialité dans l'armée et pour moi avoir ce que je voulais faire.
Le lien avec les tuteurs, c'est qu'ils sont agréables. On peut parler avec eux, lui demander qu'est-ce que on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire.
Donc on s'entend vraiment bien, donc c'est parfait.
C'est parfait, en tout cas. Les collégiens ont l'air contents. On entend qu'ils sont tout jeunes, hein, ces élèves, et très loin de l'université. En fait, c'est une question très culturelle.
Alors, nous, c'est vrai qu'on a pris le parti sur nos réflexions sur la démocratisation de l'enseignement supérieur de non pas faire le bac-3, bac+3, mais commencer cette question dès le bac-5 et en réalité à partir du premier moment dans le parcours en fait d'orientation qui est la question de la fin du collège et de la troisième. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur quelque part les aspirations, c'est-à-dire à la fois essayer de les élever bon, de manière réaliste, mais aussi les diversifier. En fait, la question, c'est comment choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et vraiment, cette question, c'est déjà presque trop tard si on la pose, si on prépare l'accès à l'enseignement supérieur juste au lycée. Quelque part, on a loupé le premier échelon et c'est vraiment très important de pouvoir commencer. Et il ne s'agit absolument pas de faire en sorte que les collégiens choisissent un métier en quatrième ou en troisième, mais qu'ils arrivent à se projeter. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que l'accompagnement, si on fait uniquement du renforcement scolaire, ce qui n'est pas ce que fait la FEV, mais finalement, si on fait uniquement ça, mais sans quelque part donner du sens et permettre aux jeunes de s'engager dans son parcours éducatif, de se projeter, quelque part de comprendre que les études, c'est pas juste pour avoir un diplôme, mais c'est pour avoir accès à un monde et un monde meilleur et avoir une meilleure vie, en fait. Et quand on arrive à les projeter dans cette logique-là, eh ben, ça change largement les choses.
Et je retiens cette formule, Eunice Mangado-Lunetta, comment choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. Avec nous au téléphone, Jimmy Losfeld, vous êtes président de la FAGE, je crois que vous êtes en congrès à Grenoble. Merci d'être avec nous. Je voulais avoir le sentiment qu'on pouvait avoir à la Fédération des associations générales étudiantes, puisque c'est le détail du sigle de la FAGE, sur cette démocratisation nécessaire des études supérieur. On rappelle que l'accès au diplôme, ça fait partie d'un programme politique, même à l'échelle européenne, c'est le processus de Bologne. Et pour revenir aux étudiants et à ce qui se passe dans les universités, comment vous la comprenez, vous, cette nécessité, et comment on peut mieux accompagner les étudiants ?
Oui, eh bien, écoutez, la démocratisation de l'accès et de la réussite dans les études supérieures, c'est le cœur du projet éducatif que porte la FAGE dans l'intégralité de ses actions, tant dans les revendications syndicales que dans les projets qu'on peut mettre en place à l'échelle des lycées ou même des collèges. Et essentiel pour deux raisons, parce que on le voit bien, on vit dans un monde aujourd'hui où on va avoir besoin de plus en plus de qualifications. La qualification est un prérequis aujourd'hui quasiment pour accéder à l'emploi. Et comme on porte comme projet la volonté de faire en sorte que chaque jeune puisse accéder à une insertion sociale et une insertion professionnelle, aujourd'hui sans qualification, sans avoir la possibilité de faire des études supérieures, eh bien on a de fortes chances d'être condamné à aller à devenir chômeur malheureusement. Raison pour laquelle il est essentiel d'offrir cette opportunité à tous les jeunes. Donc c'est un enjeu social pour les jeunes, mais c'est aussi un enjeu économique. On a vu pas plus tard que le mois dernier, je crois, une enquête qui montrait que la France, d'ici 2030, donc dans pas très longtemps, allait manquer d'1,5 million de salariés qualifiés et allait avoir trop de salariés sous-qualifiés. Parce qu'on vit dans un monde en pleine mutation, on parle souvent de l'intelligence artificielle, le développement toujours de la robotique également, donc de moins en moins d'emplois sous-qualifiés, donc on a besoin de ces qualifications. Donc c'est la raison pour laquelle nous, à la FAGE, on se bat pour cette démocratisation, parce que c'est un enjeu social fondamental, mais aussi un enjeu économique pour notre pays. Et donc voilà ce qui nous anime derrière ce combat pour la démocratisation.
Jimmy Losfeld, on a compris le constat, on a compris que vous vous battez, vous avez l'air très mobilisé. Que pouvez-vous faire? Comment vous les accompagnez, par exemple? Comment accompagnez-vous les étudiants, par exemple?
Alors, on a mis en place un projet depuis quelques années qui s'appelle What the Fac, qui est un projet d'éducation populaire, où on intervient dans les collèges et dans les lycées avec des étudiants qui viennent un petit peu ce que la FEV vient d'expliquer, c'est assez similaire comme projet. Qui mieux qu'un étudiant qui est dans la même zone d'âge, on va dire, qu'un lycéen, est capable de décrire ce que c'est que l'enseignement supérieur, ce que c'est que les études supérieures, parce que on vit dans un monde pareil où il y a quand même beaucoup de stéréotypes et il y a une représentation de l'université, mais aussi de formation supérieure, hein, de l'apprentissage, qui est quand même souvent biaisée. Donc rétablir le dialogue entre des étudiants en train d'étudier qui viennent échanger, répondre aux questions, déconstruire les préjugés dans les salles de classe, c'est la première chose qu'on peut faire. Il est essentiel que ce travail d'accompagnement et d'orientation puisse être fait par les professionnels de l'orientation et par les personnels de l'éducation nationale. Mais moi, je suis convaincu que les corps intermédiaires, à l'instar de la FEV, de la FAGE, ou même de cette association, vous savez, Article 1,
oui,
qui porte le projet Inspire, dont la FAGE est également partenaire, où là, c'est un projet de mentorat, où des étudiants relais viennent aussi aider, accompagner, répondre aux questions des lycéens. C'est un enjeu fondamental parce que quand on voit toutes les difficultés sur lesquelles on est confronté aujourd'hui sur l'accès à l'enseignement supérieur, tous les débats qu'il y a eu autour de la loi orientation réussie des étudiants, le manque de place, l'échec massif en licence, parce que je rappelle que on parle souvent de 60% de taux d'échec en licence à l'université, mais on oublie de dire que parmi ces 60%, il y en a la moitié, donc 30%, un tiers des nouveaux étudiants en licence qui ne finissent même pas leur première année et puis finissent par décrocher. Donc la démocratisation, c'est une chose, mais au-delà, il faut accrocher à l'enseignement supérieur et il faut favoriser également la réussite. Et tout ça, le B.A.B.A., c'est l'accompagnement et l'orientation. Parce qu'on a des jeunes qui sont souvent mal orientés, mal accompagnés, et quand ils faisaient leur choix sur APB, ou quand, encore aujourd'hui, quand ils font leur choix sur Parcoursup, c'est des choses qu'un algorithme ou qu'un logiciel ne peut pas régler, et bien parfois ils se trompent. Et ils ont le droit de se tromper. On ne peut pas demander à un jeune de 17 ans, 18 ans de choisir son projet professionnel à son âge. Il y a un sentiment de vertige extrêmement impressionnant quand on fait ses choix. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs tout le stress, y compris en ce moment, sur Parcoursup. L'orientation, oui, et l'accompagnement en amont est fondamental, mais aussi en aval. Faire en sorte qu'une fois inscrit dans une formation, il y ait des passerelles, la possibilité de se réorienter. Et c'est tout ce qu'on a porté au cœur du projet de réforme du plan étudiant, c'est faire en sorte d'avoir plus de perméabilité entre les formations du supérieur et faire en sorte qu'il y ait de meilleurs liens entre l'enseignement supérieur et l'enseignement et l'éducation nationale pour un meilleur accompagnement et une meilleure politique d'orientation des lycéens et des collégiens.
On va s'arrêter sur cette idée d'échec à l'université parce que vous en parlez également dans la note, Cédric Hugré. Cet échec qu'on peut relativiser mais qui reste grave, cet échec qui est aussi le prétexte aux réformes, en tout cas la raison, réforme de l'orientation, Parcoursup, il est à la fois assez massif et en même temps, il masque tout un jeu de réorientation des étudiants qui ont eu peut-être des problèmes, ce dont parlait Jimmy Losfeld, pour choisir leur voie après la scolarité.
Oui, alors là aussi, je pense que la recherche qu'on a faite avec Yaël Brimbaume et puis Tristan Poulac peut aider peut-être à clarifier certains constats, même oui, si, encore une fois, ils sont conventionnels, donc on peut les discuter. Mais bon, nous, on trouve qu'en fait, à partir de cette source, hein, qui est quand même un peu particulière, mais la réussite à l'université, c'est-à-dire c'est 61% des étudiants qui sont inscrits en première année à l'université qui vont obtenir leur licence in fine, quoi. Donc au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans. Bien sûr, ça varie selon l'origine sociale. Et puis l'autre constat, c'est que faut rappeler, il y a que 15% des titulaires d'une licence en France, d'après la source, qui étaient parmi les 50% des élèves les plus faibles à l'entrée en 6e. Donc 15%, bien sûr, ils ne distribuent pas au hasard dans toutes les filières de la même façon, on sait bien qu'ils ne sont pas tous en droit, voilà. Mais néanmoins, ça permet de relativiser, d'une part parce que le travail de l'université en premier cycle, c'est d'éliminer, comme le fait très bien le système scolaire, donc ils sont un peu plus nombreux au début, puis forcément, ils abandonnent. Mais d'autre part, sur ce point des réorientations, elles sont quand même assez marginales, et là-dessus aussi, la source qu'on a, elle permet de dénombrer un petit peu et de mieux savoir. Quand parmi les élèves qui ont échoué à avoir leur première licence, leur première année en licence, il y en a 50% qui vont avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, n'importe lequel. 50%, il y en a la moitié. Il y en a 50% qui n'auront aucun diplôme de l'enseignement supérieur. Je pense que ça invite quand même à un peu changer de paradigme et à se poser la question, effectivement, d'un droit collectif porté à la réussite, quoi, par les étudiants. Et ensuite, cet échec qui est réel, hein, c'est-à-dire qu'il y a 50% des étudiants de L1 qui, quand ils arrêtent, bah, ne vont pas avoir de diplôme, il est profondément relié au type de bac qu'on a eu et donc à l'ensemble du parcours scolaire. Bien sûr, pour les bacheliers généraux qui l'ont eu à l'heure, ce bac général, bah, la plupart on décroche un diplôme de l'enseignement supérieur ensuite, une licence, peut-être un BTS, peut-être un IUT, il n'y a pas de problème. Quand on a eu ne serait-ce que le bac général avec un an de retard, cette possibilité d'avoir un diplôme, elle tombe à 40%. Quand on a eu un bac pro ou un bac techno, c'est quasiment plus aucun, quoi. Et donc, moi, j'entends le discours on a eu des études localisées qui faisaient état de réorientation. En fait, c'est marginal. La vérité, c'est qu'on en a la moitié, que l'on sacrifie tous les ans sur les bancs de l'université française, et que l'on sacrifie parce que l'école française, non seulement elle reproduit les inégalités françaises, les inégalités sociales, mais en plus, elle les creuse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle se contente plus seulement d'enregistrer le capital culturel familial, elle les creuse. Ça veut dire quoi qu'elle les creuse? Ça veut dire qu'un enfant d'ouvrier qui arrive en sixième et qui est parmi les meilleurs élèves à entrer en sixième comme un enfant de cadre, eh ben, il a moins de chances d'être dans le meilleur quartile des élèves à la fin du lycée. Elle creuse, vous voyez. Et donc, bah, forcément, à un moment donné, quand on a un système comme ça, il faut interroger ses capacités à se corriger. Il me semble que, moi, dans ce que j'entends, et je trouve que, enfin, franchement, je plaide pour qu'il y ait un maximum d'étudiants qui aillent dans les quartiers populaires, je pense que ça, il faut. Mais il faut aussi un peu se poser la question de qu'est-ce que l'école peut faire pour ses étudiants. Et je pense qu'au-delà du lien social, au lien de la capacité à éclairer sur les fonctionnements un peu labyrinthiques du système éducatif, la question que pose aujourd'hui tout un tas de scientifiques, c'est quelle est la responsabilité de l'école dans la transmission des savoirs fondamentaux.
Évidemment, une énorme responsabilité, mais on n'a pas l'impression, réforme après réforme de l'éducation nationale, qu'on arrive à triompher de ces difficultés. Vous le dites aussi dans la note ou dans une interview, on n'a pas vraiment enregistré le choc PISA comme ça a pu l'être dans d'autres pays. Je prends exemple de l'Allemagne qui a vraiment relevé ses résultats après des premières enquêtes PISA, donc qui évaluent les élèves de 15 ans à travers l'OCDE et qui a réformé son système scolaire. On peut évidemment penser à la Finlande qui a beaucoup changé son école, transformé son école depuis 30 ans. Et devant ce qui paraît être une forme d'immobilité, je ne dirais pas à qui on doit l'attribuer, on a l'impression que c'est la société civile et les associations qui prennent un peu le relais. Et c'est ce que vous disiez peut-être, Christophe Hugret, ça ne suffit pas. Mais voilà, on voit la FEV, la FAGE, Jimmy Losfeld, je vous redonne la parole. Vous vous sentez obligé de vous mobiliser pour soutenir des étudiants qui le sont assez peu par l'université et qui ont été assez peu par l'école auparavant?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je parlais de l'importance de l'action des corps intermédiaires par rapport à la difficulté du service public à se saisir de cela. Parce que nous, on est convaincus à la FAGE de ce qu'on a besoin aujourd'hui, que ce soit en termes d'orientation ou en termes d'accompagnement une fois rentré dans les études supérieures, c'est la personnalisation des parcours, c'est la personnalisation des formations, c'est d'individualiser les politiques d'orientation et de formation de telle manière à répondre aux besoins, aux aspirations de chaque jeune. Mais c'est, enfin, une fois qu'on a dit ça, c'est un défi extraordinaire parce que notre système aujourd'hui, il est global, il est le même pour tout le monde et c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'on puisse, au-delà de ce socle commun, avoir une action beaucoup plus fine. Et c'est ce qu'on peine à mettre en place aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le service public. Ce pourquoi, effectivement, les corps intermédiaires ont plus de facilité à intervenir en complémentarité du service public pour opérer à cette personnalisation.
Vous lisez la situation de la même façon, Nice Mangado-Lunetta?
Je dirais qu'évidemment, il y a une question autour des problématiques de l'orientation. Aujourd'hui, on est orienté, notre système d'orientation va aiguiller en fait l'élève à partir de ses résultats scolaires, en fait, pour être plus concrète, de ses notes, et pour être encore plus concrète, de ses notes en français et maths. Et on voit très bien que de la difficulté du système même à avoir une évaluation plus fine de compétences qui ne sont pas toujours mises en avant par le système éducatif, très clairement en France, il y a cette corrélation extrêmement forte entre résultats scolaires et du coup champ d'orientation. Donc déjà dans cette logique-là, il y aurait en amont, et je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, pour moi il est absolument pas question que les corps intermédiaires se substituent au travail en interne qui doit être fait par, ça, en tout cas ça ne doit pas dédouaner le système éducatif, voilà j'ai bien compris, du travail qu'il a à faire. Néanmoins, évidemment, nous sommes complémentaires, donc l'idée c'est effectivement de pouvoir faire ensemble. Juste pour ajouter quand même une note un peu d'abord se décaler de l'exemple franco-français et puis être un peu pas trop pessimiste quand même à l'issue de cette émission.
J'ai essayé d'être optimiste hein, personnellement.
Mais on peut regarder aussi du côté de ce qui a été fait ailleurs. Nous, on a beaucoup été, on a construit notre programme qui s'appelle Démo Campus que j'évoquais tout à l'heure. On l'a construit en s'inspirant notamment de ce qui avait été fait en Angleterre et dans d'autres pays, notamment l'Australie, etc. Sur justement des politiques un peu aspirationnelles. En Angleterre, dans le début des années 2000, a été mis en place un programme qui s'appelait M-Higher. Donc c'est vraiment concrètement l'élévation en fait des aspirations. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée de la responsabilité de l'université à travailler du coup avec l'école en amont. Au Royaume-Uni, en fait, on a vraiment aidé l'élémentaire. On a des profs qui vont dans les quartiers, qui vont rencontrer la famille. On a très peu parlé de la question des familles, mais elle est vraiment extrêmement importante. Mais voilà. Et du coup, il y a cette idée d'aller vers pour après pouvoir quelque part massifier en fait et diversifier le public qui ira après vers l'enseignement supérieur. On pourrait en prendre exemple, je pense.
Et ce serait une responsabilité donc de l'université. Exactement. Nous marquons une pause dans cette discussion car il faut bien parler de l'actualité de l'éducation. Et une actualité assez dense en cette semaine de baccalauréat. Alors déjà, Jean-Michel Blanquer avait dit qu'il ne toucherait pas au programme scolaire. Mais le Conseil supérieur des programmes a émis des prescriptions jeudi. Et d'après la presse spécialisée, c'est-à-dire Le Café Pédagogique, un journal en ligne consacré à l'éducation, les connaissances et compétences associées et les exemples de situations sont réécrits à tous les niveaux, ainsi que les argumentaires qui les encadrent. Ça veut dire que les programmes ne seront plus tout à fait les mêmes, mais les professeurs vont devoir attendre le 12 juillet, nous apprend Le Café Pédagogique, pour en prendre connaissance et donc adapter leurs cours pour la rentrée 2018. Mais Marie-Caroline Missire, vous vouliez nous parler du bac.
Eh bien, ce fut une session plutôt sage cette année. À l'heure où nous enregistrons cette chronique, notre bac national a fait un sans faute avec zéro bad buzz.
On dirait même que les concepteurs des sujets ont tiré les leçons du passé.
Oui, car une information a retenu mon attention. La totalité des textes proposés lundi aux candidats au bac de français littéraire sont des œuvres de femmes, figurez-vous. Pour moi, c'est le signe d'une prise de conscience, un très bon signe, d'autant que les sujets d'examen sont prescripteurs. C'est Françoise Cahen qui parle dans Le Parisien cette semaine. Cette professeure de lettres avait lancé en 2016, souvenez-vous, une pétition pour que des œuvres écrites par des femmes soient enfin inscrites au programme de littérature en terminale. Et elle a été entendue.
Et on peut d'ailleurs la réécouter dans un ancien numéro de Rue des Écoles de cette année sur la place des femmes dans les programmes à vos podcasts. Mais cette année, ce ne sont ni la teneur des sujets, ni les éventuelles fuites qui ont occupé le devant de la scène.
Oui, cette session est particulière à un titre notamment. Au moment où ils passent les épreuves, de nombreux candidats ignorent encore quelle sera leur affectation dans le supérieur sur la nouvelle plateforme Parcoursup. Pour ne pas perturber les candidats au bac, la machine a même été suspendue le temps des épreuves, ce qui produit des effets contradictoires sur les lycéens. « Je suis très stressée par le bac, j'ai la pression, ma famille compte sur moi pour l'avoir, et si en plus je commence à penser à Parcoursup, je vais trop paniquer, et là je vais pas m'en sortir », raconte ainsi à Libération Benny, qui est en terminale S à La Courneuve. La jeune femme se connaît pourtant tous les jours, espérant avoir gagné quelques places sur liste d'attente. Et pour beaucoup de lycéens, cette attente est vraiment interminable. Ainsi, je crois que la réflexion sur une meilleure articulation entre le calendrier du bac et celui de Parcoursup devra être à l'étude au ministère dans les prochains mois.
Allez, on le souhaite pour les élèves de terminale l'année prochaine. Mais quittons le lycée, Marie-Caroline, pour retourner à l'école primaire, maternelle et élémentaire.
Oui, avec le plan mercredi. Et je vous épargne, chers auditeurs, toute référence aux raviolis. Le ministre Jean-Michel Blanquer entend financer les activités périscolaires des communes qui sont revenues à la semaine de 4 jours d'école par semaine. Il souhaite un mercredi intelligent avec des offres d'activités de qualité.
C'est ce qu'il nous dit. On ne va pas vouloir un mercredi stupide. Mais enfin bon.
Rappelons que 80% des communes devraient basculer sur ce rythme de 4 jours dès la rentrée prochaine. Revenons ainsi sur l'organisation qui prévalait pour le quinquennat précédent. Le financement de ces projets évolue surtout. Toutes les communes ne pourront pas en bénéficier. Elles devront d'abord soumettre leurs projets pour validation à l'éducation nationale, à la Caisse nationale d'allocation familiale et au préfet. Et puis, le taux d'encadrement pratiqué dans ces activités va être allégé. Le mercredi est bien considéré désormais comme un temps périscolaire et non plus extrascolaire, ce qui donne un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans ou un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. Et ça, ça alarme les associations du secteur de l'animation. Une pétition sur ce sujet a déjà rassemblé 5000 signatures, c'est ce que nous apprennent les Échos.
Enfin, pour la première fois, nous avons une idée de ce que pèse le marché du numérique éducatif en France.
Ah, c'est un peu ma marotte, Louise, vous savez. Et avec cette étude inédite qui a été publiée par la Caisse des dépôts et le cabinet Deloitte, qui a été présentée ce jeudi, on apprend que le marché de l'éducation, c'est-à-dire les services, les sites de ressources numériques pédagogiques qui sont proposés au niveau scolaire et secondaire, ce marché donc est évalué à 89 millions d'euros en 2017 pour la France. Aux États-Unis, il est dominé par les géants du numérique, Apple, Google, Facebook, qui ont depuis longtemps et massivement investi les classes avec leurs outils gratuits. En France, et c'est aussi un atout, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce que montre bien cette étude. Difficile, voire impossible aujourd'hui pour un enseignant d'acheter une ressource numérique pédagogique sans le soutien financier de l'établissement, évidemment, ou de la collectivité, la mairie, pour le primaire, justement. Les marchés publics sont très complexes, de nombreuses barrières à l'entrée existent, mais surtout, on a encore peu d'études qui démontrent vraiment le bien fondé du numérique à l'école, notamment pour les apprentissages. Mais les choses changent et depuis 18 mois, on insiste à une véritable ébullition dans ce secteur en France. Pour accompagner ce mouvement, le ministère envisage même de publier à la rentrée une FAQ, vous avez une foire aux questions, qui va lister tout ce que les profs peuvent faire en matière de numérique pédagogique dans leur classe. Ils souhaitent aussi les acculturer à ces outils et envisagent de faciliter les expérimentations. Un plan numérique, nous dit-on, est en préparation au ministère et devrait être présenté à la rentrée.
Je précise que ce n'est pas moi ni Marie-Caroline Missire qui vient de siffler. En fait, cette sonnerie, c'est la nouvelle sonnerie de récréation de l'école élémentaire Pierre Budin, 18e arrondissement de Paris. Et c'est aussi un projet artistique, une œuvre sonore. Ça s'appelle Train Your Bird to Talk, entraîne ton oiseau à parler. Et ça a été imaginé par les artistes David Brognon et Stéphanie Rollin. Et donc, dans cette école, les appels à entrer et sortir de classe seront désormais scandés en silbo. C'est le nom de ce langage sifflé utilisé sur l'île de la Gomera, dans les Canaries. Je vous ferai écouter un petit sifflement. Et je précise que cette commande artistique a été réalisée dans le cadre de l'action Nouveau Commanditaire de la Fondation de France. Et je vais m'entraîner à siffler très bientôt. Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture, nous parlons de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, ou plutôt de la réussite, car c'est bien ce qui se joue, une réussite très contrastée. Alors on a parlé évidemment de l'origine sociale, on a parlé des résultats scolaires qui sont très prédictifs de la future réussite dans les études supérieures. On pourrait aussi parler d'autres facteurs importants, le sexe. Cédric Hugré, être une fille ou un garçon, bien, ça compte. Et puis, l'origine migratoire aussi a pu être étudiée dans la note que vous venez de publier à l'INSEE.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre dans un premier temps à la question des inégalités genrées de réussite en licence, en fait, peut-être un des résultats nouveaux de l'article, c'est de montrer qu'il y a 5 manières d'obtenir une licence. et elles sont éminemment genrées. Il y en a deux qui sont plutôt des manières masculines de l'avoir et plutôt populaires, qui sont marquées par des parcours scolaires plus fragiles. Et puis il y en a trois autres qui sont les principales manières d'avoir sa licence, qui sont des parcours honorables ou des parcours de l'entre-deux, ou voire des parcours d'héritières, qui sont l'actualisation de la figure de Bourdieu aujourd'hui. En fait, il n'y a plus vraiment d'héritiers à l'université, mais il y a des héritières. Et à chaque fois, bien sûr, c'est les filles qui obtiennent de la meilleure façon ou de la façon la plus rentable qui soit pour la suite leur licence. Alors c'est pas un hasard, hein, on sait depuis toute une série de travaux qui ont eu lieu, qui ont été publiés au début des années 90, que la mobilisation scolaire des filles, elle est plus rentable. Que alors il y a différentes manières de l'expliquer, mais en tout cas il y a même plus de différence vraiment, même en termes de mathématiques ou d'aspects de manipulation des objets dans l'espace. Les filles sont vraiment systématiquement plus performantes, et ça on le retrouve manifestement encore plus fortement à la licence, puisque la majorité des licenciés sont des licenciés EE et qu'elles obtiennent leur licence dans des conditions scolaires qui sont très très favorables. Sur le deuxième point de la question, donc là aussi c'est une question qui a été vraiment fortement documentée, notamment enfin une série de travaux, mais dans lesquels Yael Brimbaum est partie prenante depuis plusieurs années, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé. Il y a un constat qui est important, c'est de rappeler que une partie importante des familles dont les enfants sont issus de l'immigration maghrébine. Alors on peut pas aller très finement dans les origines migratoires.
Oui, parce qu'on n'a pas les outils statistiques pour le
faire. Si on les a, mais le problème c'est qu'on est tenu par des critères de stabilité, de convergence, enfin de fiabilité des données qu'on produit, et que pour que ça soit à peu près fiable, ce qu'on dit, il faut réunir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, et donc on est obligé de parler d'origine maghrébine, même si on sait nous trois que les histoires migratoires de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie sont éminemment pas les mêmes. Pourtant, quand on fait ça, on montre quand même que ces familles-là, ces enfants-là, choisissent beaucoup plus l'université que tous les autres. Donc c'est le jeu de l'université, il est aussi marqué par le genre, par le parcours scolaire, mais par l'origine migratoire. Mais l'accès à la licence, le fait d'obtenir une licence, il est moins bon, quoi. Donc elles jouent plus le jeu de l'accès à la licence, moins celui du BTS, et en retour, elles réussissent un peu moins pour avoir cette licence. Et donc ça, c'est un point aussi, ça fait partie, enfin, si on doit lister une liste de malentendus qui se dressent à l'école pour des sous-populations, là, il y en a un qui est manifeste, en fait. Il y a des familles qui font le jeu de l'université et pour qui ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, c'est pas dû à leur origine migratoire, enfin ça n'a rien à voir, c'est bien sûr dû au type de parcours scolaire, à la manière dont l'école les a orientés, leur a transmis les savoirs, et le premier cycle de l'enseignement supérieur, et notamment le premier cycle universitaire, c'est un lieu assez idéal typique pour observer ces points-là.
Mais ça dit quelque chose de la représentation qu'on se fait de l'université dans ces groupes, peut-être par rapport à l'UT, pour prendre cet exemple, ou par rapport, pour ceux qui le peuvent, à des parcours plus sélectifs, voire plus prestigieux, parce qu'on est bien en France et on connaît la différence entre les grandes écoles, même les écoles, et les facultés.
Oui, c'est un point qu'il faut toujours rappeler. Hein, c'est une fois qu'ils ont leur bac en poche, les bacheliers ne sont que 11% à intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc dans l'espace médiatique, les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est une préoccupation centrale. Il y a des discours et on comprend pourquoi. Parce que bien sûr,
l'espace politique également. Qui a fait l'université au sein de notre gouvernement, du gouvernement précédent, à l'Assemblée nationale. Et là, on serait pas 11% d'hommes politiques et de femmes politiques passés par les classes préparatoires.
Alors moi, c'est vraiment une thèse que j'appelle de mes voeux. Je fais un appel public. Je pense qu'il faut aujourd'hui enquêter les scolarités des élus de la République, mais pas seulement des élus nationaux, mais des élus locaux et tout ça, et aussi des enfants de la haute administration, parce qu'aucun d'entre eux, on est assez sûr aujourd'hui, parmi cette génération d'hommes, hein, grosso modo, n'est passé par l'université. Quand c'est le cas, ils sont passés par des universités de droit, mais très particulières, et leurs enfants, eux non plus, n'ont pas accès à ces cursus-là, parce qu'ils passent par les classes prépa. Et donc, évidemment que ça a des effets dans les représentations symboliques, mentales de l'université, puisque c'est un monde qui est méconnu de la haute fonction publique française. Et donc, là-dessus, il faut rappeler, hein, c'est 11% des bacheliers qui vont en classe prépa. L'essentiel, les 40%, ils vont à l'université, et le reste va dans les sections de techniciens supérieurs, puis un peu dans les IUT. Et ce petit lien qui est souvent fait un peu rapidement entre famille ouvrière, préférence pour les études courtes, les STS, il n'est pas si vrai que ça. Enfin, dans le papier, on montre que les fractions les plus qualifiées des classes populaires, ou ceux où le père il est ouvrier ou la mère elle est employée, donc les deux travaillent, ils jouent plutôt le jeu de l'université. Et c'est vraiment dans les familles où les deux sont ouvriers qu'on a une prévalence, on va dire, des premières années de sections de techniciens supérieurs.
Jimmy Losfeld, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi défendre l'université tout court et son image? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu le travail d'une association ou d'un syndicat étudiant quand on voit que c'est elle qui va former massivement les étudiants issus de classes moyennes et de classes populaires?
Totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux représentations qu'on peut se faire de l'enseignement supérieur et en particulier de l'université. On a toujours d'énormes stéréotypes hein, qui existent sur l'université. On imagine un amphi bondé, où on doit s'asseoir par terre. C'est pas toujours le cas. On imagine une pédagogie où on est totalement livré à nous-mêmes. C'est de moins en moins vrai. On développe des pédagogies aujourd'hui à l'université basées sur le contrôle continu intégral, ou plutôt l'évaluation continue intégrale, qui est un modèle qui permet un meilleur accompagnement, un meilleur suivi et une meilleure acquisition des compétences et des connaissances acquises tout au long du cursus universitaire. Donc il y a tout un travail de déconstruction des préjugés qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'université, qui parfois est considéré par certains comme la poubelle de l'enseignement supérieur, et c'est un vrai scandale parce que on a une université qui est excellente en France, notamment au niveau de la recherche, au niveau de la formation, il faut la valoriser, mais tout ça aussi, ce sont les conséquences du modèle français avec cette dualité, le fait d'avoir à la fois des grandes écoles ou des formations sélectives d'un côté, qui constituent 40% de l'offre de formation supérieure, et le reste, des formations non sélectives. Donc le fait d'avoir ce système d'enseignement supérieur à double vitesse participe de la mauvaise image. Parce qu'il n'y a pas de sélection à l'université, on considérerait qu'elle serait moins bonne que notre. Parce que l'université est gratuite et coûte pas 5 000 euros ou 10 000 euros par an, elle serait moins bonne que tout établissement. C'est faux. Et le problème, là aussi, l'image de l'université anglo-saxonne vient parfois nourrir ces préjugés. Donc il faut les combattre par tous les moyens possibles et montrer que n'importe qui est en capacité aujourd'hui, peu importe son origine sociale, de réussir à l'université et mettre un terme à la démocratisation ségrégative qu'on observe aujourd'hui dans notre pays et qui vient d'être évoquée.
Cette question de l'image, je vous la pose également. Nice Mangado, Luneta. Une mauvaise image qui peut se traduire par des questions qu'on pose très souvent en France. On me l'a posée très récemment à moi, parce qu'il m'arrive d'être interviewée. L'université donne une mauvaise image de l'entreprise. Et finalement, c'est comme si l'université était accusée de ne pas former au monde du travail et que c'est elle qui était responsable. Comment on travaille sur cette image de l'université ?
Alors, en tout cas, du point de vue de la FEV et des publics accompagnés par la FEV, il y a quand même assez peu, en fait, je dirais, tout simplement, de représentation de l'université. Pour vous donner une petite anecdote, alors ça n'a pas du tout une valeur scientifique, contrairement à mon collègue ici, mais on a, lors d'une sortie collective qu'on avait organisée avec des collégiens, je ne sais plus sur quel territoire, mais les collégiens nous avaient avoué avoir été surpris de... C'est la première fois qu'ils mettaient les pieds à l'université, et en fait, il y avait à l'époque un feuilleton, je pense... un truc Walt Disney ou quelque chose où les étudiants étaient systématiquement un truc américain où ils avaient toujours, vous savez, les longues captoires, la toge en fait, hein, et puis le petit fichu sur la tête. Donc en fait, ils étaient très étonnés de voir que tout simplement les étudiants ressemblaient pas à ce qu'il y avait dans la série qu'ils regardaient tous. Donc ça peut paraître anecdotique, mais je pense que en tout cas nous les collégiens, alors un peu moins les lycéens, mais il n'y a pas de représentation, très peu de représentation de l'université, en réalité.
Mais c'est pas du tout anecdotique. Mon collègue Emmanuel Davidenkoff a fait écrit là-dessus, puisque les universités américaines ou même britanniques sont extrêmement représentées dans les fictions, oui. Y compris les romans. Il n'y a pas que les films, même pour nous, hein, les adultes, je pense à Tom Wolfe et à moi, Charlotte Simmons. Plein de livres racontent cette vie des campus et cette vie universitaire, elle n'est pas représentée dans la fiction française. Quel film se déroule dans une fac à Nanterre, à Toulouse ou à Aix-en-Provence. Et cette question de savoir à quoi ça ressemble, elle est extrêmement intéressante. Ça reste quand même, et je reviens à ma question, et plus sérieusement, Nice Mangado Luneta, l'institution qui va permettre aux jeunes des catégories populaires d'intégrer des études supérieures un peu plus ambitieuses, mais ça reste une ambition de moyen terme si on compare à ce que peut être l'image des catégories, des classes préparatoires et des grandes écoles. Mais c'est peut-être Cédric Gray qui a plus envie de répondre à ça.
Oui, bah, je vais un peu déborder du papier, bien sûr, et ces propos n'engagent que moi.
Mais...
mais moi, je plaide, et avec plusieurs, à une pédagogie de l'exigence intellectuelle, c'est-à-dire une école exigeante intellectuelle, qui réinterne...
Là, on parle de l'école, l'école
de
élémentaire...
Et de l'université aussi.
Oui.
Et pour reprendre la formule de Bourdieu, c'est une école qui s'oblige à tout, en faveur de toutes et tous, quoi. Hein. Et donc, voilà, ça, une fois qu'on a dit ça, il faut, je pense que le projet politique, c'est de réfléchir à matérialiser cette ambition. C'est le cas, pour le moment, à l'école élémentaire. Il y a quand même toute une série de réflexions qui commencent à arriver sur qu'est-ce que c'est que apprendre à lire en étant exigeant. Enfin, je pense que le débat, il est à nouveau réouvert et peut-être dans des propos qui sont plus tout à fait ceux, dans des termes d'il y a 4-5 ans, ça a un peu bougé. Là-dessus, c'est pas mal. À l'université, moi, je reste quand même interdit de voir que nos étudiants sont ceux qui ont moins d'heures de cours que les élèves de classe prépa, et que ce point-là fait juste consensus. Et que c'est quand même juste incroyable d'avoir une forme pédagogique aujourd'hui qui accueille les étudiants les plus divers, enfin, je veux dire, en premier cycle universitaire, c'est ça, où la variété scolaire, la variété des parcours, elle est importante, et où la forme pour répondre à ça, c'est quelques, c'est les, je sais pas, 18, 21, 24 heures de cours, c'est-à-dire moins qu'en terminale, en fait, clairement. Et donc, je pense que moi, enfin, à la fois, je plaide que l'article plaide pour vraiment une transformation, un changement de paradigme sur l'école, et sans doute pour accentuer les efforts sur l'école élémentaire, parce que vraiment, c'est ce que souligne l'article. Mais je pense qu'il faut aussi ouvrir le champ et la discussion sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la forme pédagogique adaptée à l'université. Je suis pas certain que le contrôle continu garantisse à toutes et tous une égalité de traitement. En tout cas, dans les collèges et les établissements de ZEP, on commence à voir les effets du contrôle continu, notamment face au BEPC, avec des systèmes de jeux de pondération d'établissements sur la sélection en lycée, en disant « Ah oui, il a telle note au contrôle continu de brevet. Mais en fait, comme il vient de tel établissement, bah non, en fait, enfin, vous voyez. » Donc je pense qu'il faut... Il faut vraiment réouvrir ce débat-là. Et enfin, si le papier il sert aussi à ça, tant mieux.
Donc il y a une question pédagogique à l'école, si je vous suis bien. Et
absolument.
Puis on retombe sur la grande question des moyens de l'université, puisqu'on sait aussi que, et on l'a dit hein, dans Rue des Écoles plusieurs fois depuis quelques semaines, plus d'étudiants, mais pas suffisamment de place pour ces étudiants, avec toujours aussi peu d'heures de cours. C'est bien cela ?
Ouais, enfin, il y a deux choses. Je pense que les moyens, c'est important. Et moi, mon laboratoire est affilié à l'université de Paris 8, qui est l'université, une des universités les plus pauvres de France. Et donc, on voit très bien ce que c'est que la pénurie matérielle à Paris 8. Et d'ailleurs, on comprend très bien aussi pourquoi c'est à Paris 8 que ça arrive, et sans doute pas dans d'autres universités. Mais une fois que la question des moyens sera ou pourrait être résolue, et qu'on aura étudié comment, par exemple, en revenant sur cette infamie qui est le crédit impôt recherche, qui est juste hallucinante, qui dérape complètement, enfin voilà, et juste l'argent du crédit impôt recherche, qui est quand même pas énorme.
Il n'y a personne pour en débattre avec vous, mais c'est vrai qu'on pourra en parler dans Rue des Écoles.
Et en tout cas, une fois qu'on aura réglé cette question des moyens, il faudra se poser la question de la forme pédagogique, parce que je ne suis pas garanti aujourd'hui que l'université, ses conditions pour accueillir les étudiants, soit la plus adaptée à faire réussir dans toutes les bonnes conditions l'accès à la licence.
Et je mettrai en lien le podcast d'un Rue des Écoles que nous avions consacré à cette question de la pédagogie à l'université, car c'est aussi très important. Cédric Hugré, je rappelle le titre de cette note, 50% à la licence, mais comment les jeunes de familles populaires à l'université en France, une note coécrite avec Yael Brimbaume et Tristan Poulaouec pour l'INSEE. Merci beaucoup également Eunice Mangado-Luneta, directrice des programmes de la FEV. Et puis le colloque sur la démocratisation, rappelez moi le titre exact, Eunice Mangado-Luneta.
Non, mais la démocratisation de l'enseignement supérieur, ça ira très bien.
Et donc, c'est le 26 juin et ça se passe dans l'amphithéâtre du journal Le Monde, boulevard Blanqui, dans le 13e. Mais nous mettrons un lien sur le site de l'émission, évidemment. Merci à Jimmy Losfeld, le président de la FAGE, qui était avec nous aujourd'hui. Et nous passons à la leçon de choses de Sophie Bobert avec le chanteur Aldebert.
Qu'est-ce qui la pousse au matin à se lever soudain, partir au bout du monde? Elle se prend par la main pour aller éduquer ses têtes brunes et blondes. Dans les entrailles de la cité, c'est la première à pointer le nez de sa con. La peinture qui s'écaille de la grille de l'entrée ne l'aide pas beaucoup. L'école c'était mieux avant, c'est ce que disent des parents, elle n'en croit pas un mot. Bonne année, châtiment, bon point, compétition, c'est bon pour les blaireaux. Dès lors qu'elle tape dans ses mains des grappes de gavroche, se range de par deux. C'est comme ça qu'elle se sent bien, même si souvent elle se fait du souci pour eux. Elle s'attend.
passion, elle milite. Par vocation, elle est instite.
Et donc le chanteur Aldebert s'est confié à Sophie Bobert. Il raconte son enfance et son éducation en musique, évidemment.
Le ballet des syllabiques démarre, précédé du cortège des sourcils froncés.
Les deux premiers 33 tours que j'ai eus, donc pas très loin d'ici, pas très loin de ce café dans lequel on est là, c'était Anne Sylvestre et Steve Waring. Donc je me souviens très très bien de ces voix qui résonnent encore beaucoup aujourd'hui. Et puis Brassens à fond, parce que mes parents étaient brassensophiles. Donc c'était ça, c'est le troisième grand-père. Je dis souvent ça, que c'est un peu le troisième grand-père imaginaire qui était dans la voiture, qui était à la maison, qui était partout. Et puis plein de gens, ouais, plein de gens en chanson, quoi.
Vous étiez ce genre de gosse seul dans sa chambre qui s'entraîne et essaye de recopier un morceau tout seul.
Exactement. Ça, c'est arrivé très tôt, dès le CM2. À l'époque, c'était Jean-Michel Jarre. Moi, j'étais dingue de Jean-Michel Jarre. Et j'aime bien aussi, je l'ai racheté en vinyle maintenant, quoi. Et après, à l'adolescence, enfin, c'est-à-dire plutôt vers 16 ans, après avoir beaucoup redoublé au collège, je me suis mis à la guitare, mais ça a été immersif, quoi. Ça a été vraiment. J'ai même sacrifié ma scolarité pour la guitare électrique. C'est-à-dire que j'avais tout ce parcours, toute cette culture, chanson, Brassens, tout ça. Et en même temps, je découvre le rock, le métal, j'apprends la guitare entre Brassens et Metallica, ce que je raconte souvent. J'apprends Supplique pour être enterré à la plage de 7 avec ce fameux Si mineur en barré qui est hyper dur et qui fait mal à l'index. Mmh. Et en même temps, j'apprends Master of Puppets. Voilà, c'est mon parcours.
Et vous séchez beaucoup.
À l'époque, ouais. Et donc c'est un peu l'angoisse parce que mes parents désespèrent, ils savent pas comment, ce qu'ils vont faire de moi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, comme on dit.
Quoi vous répondiez, Aldebert?
Ben, moi je voulais faire de la musique, mais le problème c'est que comme j'avais pas fait de conservatoire, il n'y avait pas de voix classique et normale qui s'ouvrait à moi. Donc remplaçant du guitariste de Metallica, c'était pas dans les projets, c'était pas possible. Donc il fallait trouver quelque chose. Et la seule chose, après une année de seconde où j'étais plus absent et une année à bosser en usine dans une laverie pour un hôpital, je récupère la scolarité par la petite porte, à savoir un CAP photo et un BEP audiovisuel, et puis après un bac pro photo à Paris. Donc j'apprends l'histoire de l'art, la photo, l'image, ça rejoint la bande dessinée et ça me construit aussi dans l'écriture, parce que l'écriture finalement c'est raconter des images, et donc du coup tout ça, ça m'a servi beaucoup et je me suis beaucoup épanoui finalement dans cette scolarité parallèle, professionnalisante comme on dit, et ça a été tout d'un coup une espèce de renaissance, je me suis senti comme un phénix là-dedans. Par les profs, par les gens, par cette espèce de non-compétition, enfin en tout cas c'était autrement, je m'ennuyais plus, j'étais acteur. Et je me prenais en main et c'était génial, quoi. C'était une expérience folle. Souvent, encore maintenant, je rêve encore que je suis au collège ou que je fais mon école de photo à Paris ou que je refais le service militaire aussi. J'étais un des derniers à faire le service militaire. Mais ouais, je revois ma prof de maths souvent dans mes rêves. C'est dingue à quel point ça m'a marqué, en fait, quoi. Et je lui dis, mais je m'en fous, je vais pas le passer, le brevet, ni le bac, parce que de toute façon, maintenant, je suis chanteur et je vais m'affranchir de tout ça. Elle me dit, oui, mais tu sais qu'à la fin de l'année, on t'attend au tournant, mon vieux. Mais non, mes parents aussi qui sont là, qui ont 45 ans, et moi, adulte, maintenant. C'est hyper bizarre, quoi.
Tout le monde a 45 ans dans votre rêve.
Oui, c'est bizarre. Hein.
Mais tout le monde se bat encore pour les notes et pour le brevet du collège.
Ouais, bah, c'était un tatouage, quoi, un truc. Faut que je consulte, je pense.
Aldebert, on s'approche de la fin de l'année. C'est la période de la remise des bulletins scolaires, au mois de juin. C'est la période des kermesses. Quels souvenirs en gardez-vous? Et comment étiez-vous, vous, à la lisière des vacances d'été?
J'étais surexcité. Moi, j'aime beaucoup cette période comme ça, juste avant l'été, où il y a déjà une renaissance partout. Et c'est génial. J'aime bien, en fait, ce côté avant les vacances. C'est comme avant les fêtes. Des fois, on a plus de plaisir à préparer les fêtes et les grands événements, soit un mariage, une sortie, des vacances, que les vivre. Et là, il y a cette excitation-là qu'on retrouve en ce moment. C'est-à-dire, waouh, ça va bientôt être les vacances, on va bientôt faire ci, on va bientôt faire ça. Et du coup, c'est génial parce qu'on se sent bien, quoi.
« On se sent bien avec la leçon de choses de Sophie Bobert. Prochain rendez-vous avec la leçon de choses et rue des écoles, dimanche prochain à 17h. Et puis, quand vous voulez, évidemment, en podcast. Merci à toute l'équipe de l'émission, Somanina, à la réalisation, Pierrick Monsigny, à la prise de son. Anna Holweck était avec nous également aujourd'hui. Et merci à Marie Dalquier. Excellente soirée à toutes et à tous sur notre chaîne.